Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du rôle joué par la famille Sackler dans la crise des opioïdes qui sévit actuellement aux États-Unis.
Oui, une crise sanitaire aux allures de pandémie organisée puisque ce sont près de 400 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis d'une overdose aux opioïdes depuis le début des années 2000. Or, ce désastre n'a rien d'un accident. Plusieurs enquêtes médiatiques et judiciaires ont démontré qu'il avait été savamment orchestré, méthodiquement construit par la société Purdue Pharma. Ainsi, cette entreprise a commercialisé en 1995, l'oxycontine, un puissant antidouleur visant à soulager les malades incurables et les patients en fin de vie. Mais rapidement, l'entreprise mère perçoit la possibilité de démultiplier ses profits et décide de déployer une stratégie publicitaire et commerciale démesurée. Hautement addictif, le médicament est pourtant vendu comme de l'aspirine par l'entreprise qui l'écoule en immenses quantités, à grand renfort de prescriptions gratuites et d'intéressements financiers. En 4 ans à peine, les ventes d'oxycontine passent de 45 millions à 1 milliard de dollars et contaminent des dizaines de milliers de patients.
L'entreprise est même condamnée pour ses mauvaises pratiques outre-Atlantique.
Oui, dès 2003, l'Agence fédérale de contrôle des stupéfiants accuse Purdue Pharma de minimiser les risques associés aux médicaments aux dépens de patients mal informés. Comme l'explique un article du Monde, l'entreprise doit même verser en 2007 une amende colossale de 600 millions d'euros pour avoir prétendu que son médicament était moins addictif que ceux de ses concurrents. Or, ce qu'il est intéressant de relever dans cette affaire, c'est que longtemps, le seul nom mis en cause dans cette crise a été celui de la firme productrice et non celui de la puissante famille qui la possède, les Sackler. On parle ainsi poliment de crise des opioïdes, éventuellement de l'oxycontine et des laboratoires Purdue, mais quasiment jamais de la famille Sackler, dont on connaît pourtant l'implication dans ce scandale sanitaire sans précédent, puisqu'elle a dirigé l'entreprise sans discontinuer depuis sa fondation et n'a opéré de véritables changements dans ses méthodes qu'en 2018.
Il faut dire que la famille a mis en place une stratégie très efficace pour ne pas ternir son image.
Absolument, tout a été fait par le clan Sackler pour ne jamais être associé aux activités pour le moins douteuses de leur propre entreprise, comme si la responsabilité individuelle des dirigeants se perdait dans la responsabilité collective et diffuse de l'entreprise, comme si le nom de la firme servait à protéger celle de l'honorable famille qui la possède. Et pour cause, le nom de la famille Sackler est aujourd'hui bien plus connu pour son mécénat et son action philanthropique que pour ses activités industrielles. Il faut dire que si le camp Sackler n'hésite pas à communiquer sur les dons effectués au profit d'illustres institutions comme le musée Guggenheim ou le Metropolitan Museum, il est en revanche mutique en ce qui concerne ses activités pharmaceutiques.
Une communication à deux vitesses qui ulcère les victimes de l'oxycontine qui ont décidé de dénoncer cette stratégie.
Exactement, les actions se sont ainsi multipliées pour dénoncer ce double visage et cette dissociation d'activités particulièrement hypocrites, alors que Richard Sackler, fils de l'un des fondateurs et ancien PDG de la firme, prédisait un blizzard d'ordonnances pour enterrer la concurrence. Des activistes ont décidé en février dernier de jeter une pluie de fausses ordonnances d'oxycontine devant les marches de musées new-yorkais bénéficiant d'une salle, une collection Sackler. Rappelons qu'au Louvre aussi, on retrouve aujourd'hui une aile Sackler dédiée aux antiquités orientales. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, le don et la charité sont utilisés comme des manières bien utiles de racheter ses autres péchés.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, on peut réécouter votre chronique sur franceculture.fr et en podcast.